Le tourisme est un moteur économique dans les Hautes-Alpes, ça on le sait, mais il n'y a pas que lui. Les chiffres du monde agricole parlent pour eux-mêmes. 1860 exploitations, 2315 agriculteurs, 3000 emplois, soit 8% des actifs, 213 000 hectares de surface agricole utile avec les alpages, 39% donc de la surface départementale occupée par l'agriculture. Mais le secteur subit-il des pressions de main-d'œuvre comme on rencontre aujourd'hui dans d'autres domaines ? Éric Lyons, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le Oui, dites-moi.
Oui, ben très bien. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation.
Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. Au niveau des chiffres, ça reste toujours inchangé parce que ça, ce sont des chiffres de 2019. Hein. 1860 exploitations, 2315 agriculteurs, 3000 emplois.
Oui. Effectivement, je veux dire, à quelques chiffres près, on est vraiment dans les grandes masses.
À quelques unités près, l'agriculture, je le disais, c'est un moteur économique. Au niveau de la main-d'œuvre, vous l'avez certainement entendu dans d'autres secteurs comme l'hôtellerie-restauration, voire même le bâtiment, on rencontre des pressions au niveau de la main-d'œuvre. Est-ce que ce phénomène rencontré après la crise sanitaire, eh bien, ça s'applique aussi au niveau agricole ?
Bien, et bien, comme vous le rappeliez, l'agriculture, effectivement, c'est le deuxième pôle économique du département, donc c'est quelque chose d'une activité très importante. Et bien entendu, la main-d'œuvre est aussi très importante dans notre métier. Comme vous le savez, on a une grosse région arboricole et l'arboriculture demande beaucoup de main-d'œuvre. Hein. Beaucoup de choses se font à la main, bien entendu. Je dirais que l'agriculture est confrontée aux difficultés de main-d'œuvre depuis de longues années déjà. Parce que on a des métiers qui ne sont pas très attractifs ou on n'a pas communiqué de façon très positive sur ces métiers. Donc, pour nous, la recherche de main-d'œuvre est toujours quelque chose, un moment fort, notamment pour les arboriculteurs quand ils cherchent à préparer leurs équipes, mais pas que.
Donc finalement, la crise sanitaire, ça a aggravé cette situation ou on continue dans la même réalité ?
Eh bien, vous savez, la crise sanitaire, elle a eu quand même un impact sur notre société assez important, mais même au niveau mondial, hein, qui fait que les salariés ont découvert de nouvelles formes de travail, ont retrouvé d'autres valeurs qui avaient été perdues au fil du temps, mais avec la volonté aussi peut-être de profiter davantage de leur famille, etc. Et tout ça fait que, effectivement, on a un peu des soucis de main-d'œuvre, mais je dirais que c'est de l'offre et de la demande, et que pour nous, les métiers de l'agriculture, comme on avait déjà des difficultés de recrutement, eh bien, c'est quelque chose auquel on l'a ressenti, bien entendu, mais peut-être pas aussi de façon prégnante que certains de nos partenaires, bien entendu.
Oui. Et au niveau des installations, alors, est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir chefs d'exploitation par rapport aux cessations ? Est-ce qu'on arrive à retrouver un équilibre ou c'est toujours assez fragile ?
Je dirais qu'en ce qui concerne l'installation des jeunes agriculteurs, notre département est plutôt en phase dynamique. On est quasiment à la parité d'une installation pour un départ. Mais il y a un réel enjeu dans les années à venir, hein, puisque on a une grande partie de nos agriculteurs qui vont atteindre l'âge de la retraite et donc qu'il faut remplacer pour ne pas perdre de vitalité dans nos territoires et puis de dynamisme de notre agriculture. C'est pour nous une priorité absolue que l'installation des jeunes agriculteurs, bien entendu.
Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qui doit être mis en place justement pour amplifier ces installations ? D'ailleurs, est-ce que ce sera l'un des thèmes primordiaux à aborder pendant la campagne des présidentielles ? Deux questions en une, hein, mais un thème principal pour les présidentielles ?
Moi, je pense que l'un des thèmes principaux pour la présidentielle va être la souveraineté alimentaire de notre pays, hein. Puisque on a un pays qui a effectivement prononcé nombre de lois et réglementations concernant l'agriculture, y compris avec des lois européennes toujours plus contraignantes, et qui font que une partie de l'alimentation de nos concitoyens va être produite dans les prochaines années dans des pays tiers où la réglementation est bien inférieure, ou n'existe tout simplement pas. Quoi, je veux dire, c'est un peu l'autruche qui se met la tête dans le sable. Mais effectivement, je le disais chez l'un des plateaux d'un de vos confrères, qu'on avait connu en 2008 une crise financière mondiale. En 2020, on a connu la crise du Covid, qui est une crise sanitaire mondiale. Faisons attention de ne pas connaître un jour une crise alimentaire mondiale du fait de notre désir de toujours plus et toujours plus de réglementations et de contraintes. Alors, bien entendu, il faut être très respectueux de la façon dont on produit, des produits que l'on utilise, etc.
Mais attention aux lourdeurs administratives et aux lourdeurs réglementaires. Finalement, ça rejoint aussi la première partie de ma question quand je vous disais comment on fait pour encourager les jeunes à s'installer. Pour les encourager à s'installer, il faudrait alléger ces réglementations.
Oui, c'est la vérité portée du combattant pour s'installer en agriculture chez nous. Donc, bien entendu qu'il faut une solide formation parce que c'est des métiers quand même, c'est des métiers du vivant et qu'on fournit de l'alimentation. Donc, on a besoin d'une bonne formation, des bonnes conditions de travail pour attirer les jeunes. Ça, c'est indispensable. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de bien-être animal, ce qui, pour nous, est quelque chose de très bien. Mais tout cela génère des coûts importants au moment de l'installation et tout au long du parcours d'un agriculteur, d'un professionnel. Donc, bien entendu, que pour pouvoir répondre à tous ces enjeux, il faut bien entendu des prix rémunérateurs. Ça, c'est quelque chose qui, quand même, dans le monde agricole, est une difficulté principale. Et puis, s'il y en a des prix rémunérateurs, une reconnaissance de la société, parce qu'en gros, quand même, le monde agricole est plutôt bien vu. On le voit dans les sondages médiamétriques, que les agriculteurs sont plutôt bien vus dans la société. On attirera de nouvelles installations, j'en suis persuadé. Et on va tout faire pour en attendant.
Alors, la semaine dernière, le groupe national Loup s'est réuni. Est-ce que vous sortez satisfait des annonces qui ont été effectuées, notamment cette dernière, hein, c'est-à-dire que le loup sera compté et par l'Office national de la biodiversité et par les éleveurs?
Bien entendu, je suis laissé le point d'avancée, c'est le véritable point d'avancée du plan. Il faut être très clair. Le comptage des loups a été minimisé pendant 30 ans, puisque maintenant ça fait 30 ans que l'espèce est apparue en France. Où on le sait parfaitement, compte tenu des attaques que nous subissons dans notre région, qu'il y a eu une minimisation des comptages. Et que l'espèce aujourd'hui, elle est en plein développement, puisque chaque année, le plan loup permet de prélever 20% des loups sur notre territoire. Et malgré ces 20% de prélèvements, on n'arrive plus à contrôler l'expansion du loup ni les dégâts. Donc, cette demande qui était faite depuis longtemps, bien entendu, on l'accueille avec satisfaction. Il faut que ceux qui voient du loup, on puisse effectivement comptabiliser ces loups-là et arrêter de faire confiance aveuglément aux défenseurs de la nature, qui ont leur rôle, bien entendu, mais pour compter les loups, je veux dire. Il y en a trop qui n'étaient pas vus ou pas comptés, quoi.
Comment ça va fonctionner très concrètement? Il va y avoir des campagnes de comptage où dès qu'un agriculteur, dès qu'un éleveur voit un loup, il le signale?
Non, ça peut être un agriculteur, ça peut être... Je veux dire, on manque de témoignages et de recensement de témoignages. Quand il y a deux personnes qui, effectivement, observent une meute de loups sur un secteur, bon, ben, on va quand même, je veux dire, il faut vérifier, mais ça donnera des points d'indication qu'il y a une présence de loups et qu'il faut en tenir compte. Moi j'observe juste une chose. L'année dernière, lorsque Mme Pompili était venue sur notre département, la ministre de l'Environnement, on avait essayé de lui faire toucher du doigt la problématique que nous rencontrions. Moi, je m'en réfère aux propos tenus par les responsables régionaux de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui nous racontaient que les meutes étaient tellement nombreuses qu'ils n'arrivaient plus à les compter. Donc, à un moment donné, effectivement, il faudra se donner les moyens pour et recompter les meutes et les loups de façon assez précise pour définir un véritable plan d'action qui permettent à mieux les contrôler, à limiter l'impact sur la faune sauvage aussi, mais bien entendu, surtout, limiter l'impact sur l'agriculture et l'élevage en particulier, quoi, parce que bon, on est dans une situation qui n'est plus tenable, hélas.
Merci beaucoup Éric Lyons d'avoir été avec nous ce matin dans le 8-30 d'Alpin. Et je rappelle que vous êtes donc le président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. Merci.
C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et de consommer des bons produits alpins.
Merci, l'appel est lancé. Merci.